Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Vous allez écouter dans un instant le premier volet de ce regard croisé sur l'écologie présenté par Anne Sauty de Chalon avec pour invité le journaliste Patrice de Plainquette. Pour compléter ce regard croisé, nous vous invitons à écouter l'émission avec Jean de Kervas-Doué, professeur d'économie au CNAM et auteur d'un livre sur l'écologie intitulé « Les prêcheurs de l'apocalypse ». Vous trouverez cette émission sur notre site www.canalacademie.com. dans les émissions Regards croisés.
Aux racines de l'écologie, pour ce regard croisé, l'écologie, que signifie-t-elle? Où va-t-elle? D'où vient-elle? Ses origines? L'origine du mot, bien sûr. Vous savez qu'à Canal Académie, nous sommes particulièrement vigilants sur ce point, savoir d'où viennent ces concepts qui peuplent notre univers médiatique, qui nous imposent des schémas. Mais ces schémas, d'où viennent-ils? Que signifient-ils précisément? L'écologie, c'est un peu un champ traversé par des sillons idéologiques extrêmement divers, voire opposés. Alors on va essayer d'y voir clair avec Patrice de Plainquette. Bonjour Patrice de Plainquette.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, ancien directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et vous vous êtes distingué par une série d'enquêtes concernant des sujets extrêmement divers, que ce soit l'Opus Dei ou encore Benoît XVI et le plan de Dieu. Je citerai également « Nous sommes des animaux, mais on n'est pas des bêtes » qui était peut-être un prélude à votre réflexion sur les questions de notre rapport à notre environnement. Et vous revenez avec « L'écologie de la Bible à nos jours » pour en finir avec les idées reçues aux éditions de l'œuvre. J'ai parlé des racines de l'écologie, et en particulier des racines chrétiennes de l'écologie. La première idée reçue, c'est que l'écologie en soi n'est pas chrétienne, c'est ce que tout le monde vous dit.
Oui, quand vous discutez de l'écologie, de l'environnement, de la pollution avec votre médecin, votre pharmacien, un membre de votre famille ou votre épicier, au bout de 5 minutes, il vous dira « Est-ce que tout ça n'est pas la faute de la Bible à cause de ce verset de livre de la Genèse ? Quand Dieu crée le monde, il dit à l'homme « Croissez, multipliez, dominez la terre ». Alors, la civilisation occidentale est censée être sortie de ce verset est censé être un permis de polluer. En réalité, ce n'est pas vrai du tout et c'est une des choses que j'ai découvertes dans mon enquête, en revenant aux sources.
Les sources sont-elles définitivement établies? Ce sont des sources qui ne sont pas conjoncturelles, ce sont des sources de l'Écriture.
Je parle des sources naturellement de l'Écriture, la Bible dans son ensemble et le Nouveau Testament et les épîtres de saint Paul, etc. La totalité des Écritures judéo-chrétiennes, traduites comme elles doivent l'être, c'est-à-dire en étant proche du texte hébreu, au plus près du texte hébreu, et en évitant un peu les glissements de sens des traductions françaises classiques, 17e, 18e, 19e, qui ont un peu vieilli et qui justement, quand elles parlent de croissance, les gens entendent croissance qu'au sens du CAC 40. Pas du tout, le texte hébreu ne dit pas croissance, il dit fructification. Dieu dit à l'homme, fructifie, porte du fruit, soit le jardinier de la création. Et c'est tout à fait autre chose.
Et ne pas croître de manière démesurée, sans objectif, sans mission.
Et ne pas croître de manière démesurée, ne pas violenter ni la terre, ni les autres hommes. Et du reste, dans le livre de la Genèse, tout de suite après la création, vous avez l'histoire de Caïn qui tue son frère. Et Dieu dit à Caïn, la terre se révolte contre toi parce que tu l'as souillée du sang de ton frère. Et l'idée de la terre qui se révolte contre l'homme à cause des fautes de l'homme, mais c'est une idée qui est justement, qui est typiquement écologique.
Alors l'idée existe, mais est-ce que le mot écologie existe ? En soi.
Non, naturellement. Le mot écologie est de la fin du 19e siècle. Ça a été un mot d'ailleurs qui a été lancé par des scientifiques. Au départ, l'écologie est une démarche scientifique. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un parti, encore moins une secte. C'est une discipline de scientifiques qui commence à comprendre, à la fin du 19e siècle, que, et même un peu avant, que la biosphère, l'écosphère, la planète où vit l'homme, est un tout, c'est un ensemble interactif, où tout réagit avec tout. Donc il y a une espèce de logique de l'ensemble qu'il faut étudier et il faut faire attention à ne pas déséquilibrer cet ensemble. Et ça c'est l'idée fondatrice de l'écologie. Unité de la création, unité de la planète, de la biosphère, appelez-le comme vous voulez, et de l'homme dans ce contexte, et en même temps responsabilité de l'homme vis-à-vis de cet ensemble qu'il faut garder équilibré.
Dans l'imaginaire chrétien, Patrice de Plainquette, l'écologie, c'est, vous citez d'ailleurs la phrase dans votre ouvrage, c'est le socialisme avec un pot catalytique. C'est une idée qui est plutôt ancrée à gauche et qui oscille entre le pacifisme et le socialisme, le collectivisme.
Alors l'idée que l'écologie n'est pas le socialisme doté d'impôts catalytiques est une expression d'un écologiste d'ailleurs, que j'ai trouvé dans la revue éponyme qui s'appelle L'Écologiste, qui est la revue de Teddy Goldsmith, qui est un franco-anglais, le frère de feu Jimmy Goldsmith. Et cette revue a une version française qui s'appelle L'Écologiste, dans laquelle j'ai trouvé cette phrase: l'écologie n'est pas le socialisme doté d'impôts catalytiques. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que si l'écologie a un peu mauvaise réputation, je dirais dans les milieux de droite en France, pour faire court, ou les milieux conservateurs, c'est parce que la politisation lui a beaucoup nui, parce que, il faut bien le dire, le Parti des Verts, français en tout cas, au lieu de mettre la politique au service de l'écologie, a mis l'écologie au service de la politique politicienne. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'il fait de 2,5% ou 3%, parce que les gens ont bien vu que ce n'était pas vraiment un mouvement écologique, un mouvement qui aurait l'environnement comme préoccupation première, mais un mouvement qui avait comme préoccupation première, pardon, les alliances politiques, les manœuvres électorales, etc. Ce qui est normal de la part d'un parti politique, mais ce n'est pas normal de la part d'un mouvement écologique.
Il s'agit donc pour vous de décloisonner un petit peu cette notion.
Il s'agit de rendre cette notion à son sens originel, à son sens plénier, qui est d'être à la fois une étude scientifique de la nature et de l'homme dans la nature, et en même temps un engagement de la part de l'homme à respecter ou rétablir les équilibres naturels. Une science et un engagement, c'est ça l'écologie, et ce n'est pas un parti. Même si l'écologie vraie, plénière, est en même temps politique, puisqu'elle demande aux politiques de prendre des responsabilités vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'organisation économique. Alors l'écologie politique, c'est ça.
Est-ce que les chrétiens ont une part dans l'idée écologique en tant que telle, ou bien est-ce qu'ils ont cédé à l'idée du progrès à laquelle on associe de très proche, de très près, le christianisme?
Les chrétiens ont une part essentielle à l'origine. D'une part, on a parlé de l'écriture tout à l'heure, on a parlé de saint Paul, j'en ai parlé très brièvement, mais saint Paul écrit dans l'épître aux Romains et reprend dans plusieurs autres épîtres que les promesses du salut éternel s'adressent non seulement à l'homme, mais à toute la création. La phrase de saint Paul, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, c'est d'un enfantement qu'il s'agit. Et le Christ étant le créateur, mais en même temps le fils de la création, puisqu'il s'est fait homme, eh bien, il y a une espèce d'unité entre le divin et le naturel, le divin, l'humain et toute la création. Et ça, c'est unique dans la religion chrétienne. Et c'est, si vous voulez, ce qu'on peut faire de plus fort sur le plan d'une métaphysique écologique. Alors, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, il y a une pensée profonde de l'unité du cosmos et de l'homme dans le cosmos. Hildegard de Bingen, par exemple, femme et penseuse de très haut vol, a là-dessus des textes d'une puissance extraordinaire, qui ressemblent d'ailleurs aux textes écologiques les plus profonds d'aujourd'hui. Ça déraille au XVIIe et au XVIIIe siècle, parce qu'à ce moment-là, arrivée du cartésianisme et du post-cartésianisme, c'est-à-dire le monde conçu comme une machine et l'homme comme une machine. Et à ce moment-là, on oublie, et les chrétiens se mettent à oublier un peu aussi, que Dieu créateur, c'est pas une chiquenote donnée à l'origine du monde et ensuite Dieu s'en va. Et l'homme fait ce qu'il veut du monde. Pas du tout. Dieu crée à tout instant. Le monde est créé par Dieu aujourd'hui, maintenant, à tout moment. Et ça, c'est l'idée forte qui fait que l'homme est responsable, le chrétien est responsable du monde devant Dieu, devant son créateur. Les chrétiens perdent ça un peu de vue sous la pression de la pensée des Lumières, qui est un peu la pensée de l'homme-machine, et ils perdent la bataille intellectuelle. Et c'est la pensée des Lumières, la pensée de l'homme-machine, qui va être l'idéologie de la révolution industrielle. Parce que la révolution industrielle aurait pu prendre une toute autre tournure. Elle aurait pu ne pas réduire le prolétariat à l'esclavage, ni martyriser la nature en l'exploitant abusivement, si les chrétiens étaient restés aux commandes, et s'ils étaient restés chrétiens, je dirais, pour faire court là aussi. Et donc ils perdent la bataille, et ensuite ils mettent très longtemps à refaire surface, d'abord sur le plan social, ça c'est tout le 19e siècle, c'est la naissance du christianisme social, et puis au 20e siècle, sur le plan écologique. L'écologie chrétienne n'apparaît qu'à la fin du 20e siècle, dans les années 70, mais en même temps que l'écologie politique d'ailleurs. Les chrétiens ne perdent pas beaucoup de temps. L'écologie politique apparaît vers les années 70, un peu avant. Le premier pape a parlé de l'écologie et Paul VI, et il en parle en 71, donc il n'y a pas trop de temps perdu.
Ce que je voulais dire, Patrice de Plainquette, c'est entre le progrès et l'écologie, est-ce que les chrétiens ne sont pas plus du côté du progrès? C'est-à-dire que l'idée de transformation du monde et l'idée de verticalité un petit peu de l'histoire, de sens de l'histoire un petit peu vertical, vient aussi de cet esprit typiquement occidental qui a été peu ou prou l'objet, en tout cas la création du christianisme. oui, qui est né dans le christianisme.
Le monde occidental est né dans le christianisme, mais comme je le disais tout à l'heure, à l'âge classique, il...
Et l'idée de progrès aussi.
Ah oui, bien sûr.
De transformation.
Mais ce n'est pas la même. Le christianisme introduit l'idée que l'histoire a eu un début, qu'elle aura une fin, et que l'homme est destiné à aller vers un destin extraordinaire, infini, mais dans le Christ. C'est religieux, c'est métaphysique. L'idée de progrès qui apparaît au XVIIIe siècle, c'est une idée purement matérielle et c'est une idée de progrès indéfini, de croissance indéfinie de la puissance humaine. Et ça, c'est une idée qui est profondément antichrétienne, puisque pour les chrétiens, pour les juifs aussi, l'homme est une créature finie. Seul Dieu est infini. Il ne peut rien y avoir d'infini sur cette terre. Et entre autres, l'économie ne peut pas avoir une croissance infinie. Pour une raison d'ailleurs bien matérielle aussi, ce qui est que les ressources elles-mêmes sont limitées. La planète est finie, elle est limitée. Il ne peut pas y avoir une exploitation économique infinie et indéfinie des ressources finies de notre planète. Et ça, c'est également une idée très écologique. Les chrétiens se sont écartés de cette idée et ils ont oublié qu'il y avait une finitude de la condition humaine et des ressources matérielles de la Terre. Et en ce sens, ils sont devenus moins chrétiens. Et ceux qui ont adopté l'idée matérialiste du progrès, eh bien, ils l'ont fait en contradiction avec leur foi chrétienne, sans en avoir complètement conscience. En ce moment, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire à toute vitesse. Les catholiques français perdent les objections qu'ils faisaient à l'écologie. Il faut dire que l'Église les y aide beaucoup, parce qu'il y a des prises de position depuis quelques années, de plus en plus fermes de l'Église en faveur de l'écologie.
On va y venir justement. Entre dégrader la nature et nourrir un homme, quel choix doit faire le chrétien ?
Si
pour le nourrir, il faut dégrader la nature.
Si on pose la question dans des termes aussi dialectiques, on ne peut pas y apporter de réponse, parce que l'idée de dégrader la nature n'est nullement inclue dans l'idée de l'agriculture ou même de l'industrie. On peut parfaitement imaginer des modèles agricoles et industriels qui ne soient pas abusifs. On peut redimensionner l'économie à dimension humaine, comme le voulait l'économiste germano-anglais Fritz Schumacher, l'auteur de Small is Beautiful, qui était la bible des écologistes des années 70 et 80, et qui était lui-même un converti au catholicisme. Il s'était converti au catholicisme en découvrant les textes sociaux des papes. Donc l'économie n'est pas forcément le martyr de la nature, bien au contraire. Et tout le combat de l'écologie politique radicale, c'est justement d'aider à naître un nouveau modèle économique qui soit respectueux des grands équilibres.
Alors Patrice de Plaquette, est-ce que l'on peut justement prendre les textes de référence du christianisme qui font appel à cette écologie, à ce respect de l'environnement ? Est-ce que le mot d'ailleurs « respect de l'environnement » est bon ?
Alors, le mot n'est pas très bon parce qu'il y a beaucoup de mots ambigus dans notre vocabulaire actuel. Développement durable est un mot ambigu, croissance est un mot ambigu, décroissance est un mot ambigu aussi. Respect est un mot ambigu dans la mesure où c'est une notion morale et que la nature, qui est le partenaire, qui est le monde de l'homme, n'a pas une morale intrinsèque. C'est l'homme qui a une morale. Un homme qui se respecte ménage la nature, et ménage les animaux, etc. Mais c'est par respect envers l'homme qui est créé à l'image de Dieu. En ce sens, en effet, l'homme est différent de la nature, puisque le plus qui est énorme, c'est que Dieu le crée à son image. Il lui donne la raison et il lui donne précisément la conscience morale, le bien et le mal, ce que la nature n'a évidemment pas. Donc c'est à l'homme de prendre ses responsabilités.
Donc en respectant la nature, en fait, il se respecte lui-même et respecte l'image qu'il est, c'est-à-dire celle de Dieu.
Oui, dans ce sens-là, oui.
Ça suppose évidemment une conception métaphysique de l'existence. Dès lors qu'on sort de cette conception-là, tout est permis.
Oui et non, parce qu'il y a beaucoup d'écologistes qui ne se veulent pas chrétiens du tout, soit parce qu'ils ont une idée fausse du christianisme, ce qui est un autre problème, soit parce que tout simplement ils n'ont pas de foi religieuse. Ça ne les empêche pas de partager les propositions des écologistes chrétiens vis-à-vis de l'environnement. La question de l'environnement est objective et elle est partageable, qu'on ait une foi religieuse ou qu'on n'en ait pas, ou qu'on appartienne à des religions différentes, bien entendu. Il s'agit donc de choses objectives et partageables. Un écologiste chrétien amène une dimension supplémentaire qui est qu'il sait ou qu'il croit que la nature est créée par Dieu et que l'homme est responsable de la nature devant Dieu et que la nature est appelée à être transfigurée en Dieu dans l'au-delà. C'est un plus, mais ça n'est pas une condition. L'écologiste chrétien ne dit pas « je ne veux travailler qu'avec des chrétiens ». Bien au contraire, la terre est en charge de tous les terriens, qu'ils soient chrétiens ou non, bien entendu.
Vous disiez que l'écologie est une idée apparue dans le monde scientifique au XIXe siècle. Est-ce que les papes en ont tout de suite pris conscience ? Puisque vous citez de nombreux textes de papes, de Jean-Paul II en particulier, Est-ce qu'au XIXe siècle, déjà, cette prise de conscience était une réalité ?
Non, parce qu'il n'y a pas de prise de conscience écologique avant la seconde moitié du XXe siècle. Je dirais même le dernier tiers du XXe siècle.
Que même l'Église ne se rend pas compte qu'elle est écologique avant le XXe siècle.
La priorité est sociale. La priorité est de restituer à la classe ouvrière et après la décolonisation au peuple pauvre du Sud, les droits humains que le système occidental leur avait déniés. Il faut bien le reconnaître. Bon. Donc priorité au social. L'écologique est une prise de conscience qui est venue après. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'Église n'a pas de retard par rapport au mouvement écologique laïque, puisque tout ça, c'est les années 60-70 en réalité. L'Église prend conscience, en même temps que les écologistes, qu'il y a maintenant un problème planétaire. Alors les protestants ont un coup d'avance. C'est certain, les catholiques ont quelques années de retard, mais pas tellement d'années.
Alors, ce que pense l'Église, justement, et les plus beaux textes que vous avez extraits de votre enquête sur les Écritures, l'écologie de la Bible à nos jours, à tout de suite, Patrice de Plainquette.
Bernard Buffet est de ces peintres qui ont connu très jeune un succès fulgurant, puis ont été boudés par la critique. Il a été reconnu, à juste titre, comme un peintre majeur du XXe siècle par l'Académie des Beaux-Arts, et élu membre dans la section peinture en 1974. Écoutez notre émission en compagnie de l'historienne de l'art Lydia Arambourg, réalisée dans la galerie Maurice Garnier. L'émission Bernard Buffet, peintre de la solitude, est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Regard croisé consacré à l'écologie aux racines même de l'écologie, avec une précision supplémentaire, les racines chrétiennes de l'écologie. L'écologie de la Bible à nos jours, Patrice de Plainquette, c'est aux éditions de l'Œuvre. Vous avez fait une enquête sur des textes que l'Église, justement, c'est ce qu'on disait précédemment, que l'Église peut-être ignorait ou du moins n'avait pas relié à cette dimension qui est l'un des enjeux du XXIe siècle, si ce n'est l'enjeu du XXIe siècle, qui est celui de la planète. Or, oui. Tout est contenu dans l'Écriture, dès le départ.
En germe, bien entendu. L'Écriture est à la fois... La Bible est un fleuve, en réalité. Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. C'est un fleuve avec un amont et un aval. Et en amont des Écritures, vous avez tout ce qui va donner la théologie, les développements théologiques des siècles suivants et des millénaires suivants. Et dans le livre de la Genèse, on a contenu en germe, en effet, toute la responsabilité de l'homme envers la nature, le fait que l'homme fait partie de la nature, mais qu'en même temps, la nature est confiée à l'homme par Dieu créateur. Ça, c'est absolument essentiel. Mais l'Église a pris conscience du fait que c'était l'âme profonde de l'écologie, l'esprit profond de l'écologie, quand l'écologie est née, puisque l'Église n'a pas précédé l'écologie. L'écologie est née d'un besoin. Elle est née de la prise de conscience, à la fin du XXe siècle, du saccage du monde par le système économique occidental globalisé. À ce moment-là, l'écologie est née et l'Église a pris conscience du problème en même temps que les écologistes. Et elle a, à ce moment-là, ressaisi son patrimoine scripturaire, toute la Bible, et la théologie aussi, en le relisant dans la perspective du combat pour retrouver une harmonie de la planète.
Hormis la Genèse, la Bible, est-ce que les pères de l'Église ont également travaillé le sujet ?
Les pères de l'Église n'ont pas beaucoup développé le sujet, encore une fois, parce que la question ne se posait pas dans les termes où elle se pose maintenant. Bien entendu, il y a toujours eu saccage de la planète, plus ou moins, mais avec de petits moyens. Quand Platon, des siècles avant notre ère, se plaint que les chantiers navals athéniens ont rasé les forêts et érodé les sols, c'est amusant parce que c'est une prise de conscience écologique très ancienne, très antique. Mais c'était quand même de petits moyens, il n'y avait pas d'industrie, c'était un gros artisanat qui pouvait abuser, mais pas au point où le système industriel et chimique moderne arrive à intoxiquer les sols et l'atmosphère. Donc les choses ne sont pas comparables.
En fait, on a vécu jusqu'au temps moderne, dans ce jardin clos que vous décrivez, qui est le monde de l'âme et l'espace du rêve pour l'homme médiéval, ce mythe est d'origine. Il vient de la Genèse, dans le jardin d'Éden où Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger. Pendant très longtemps, on a vécu sur cette idée.
Pendant très longtemps, on a vécu sur l'idée que l'homme devait être reconnaissant au Créateur de lui avoir donné les ressources de la nature et qu'il fallait respecter apporté, si l'on peut dire, un certain équilibre dans la façon d'exploiter la nature. Le Moyen-Âge coupe les forêts, ensuite reboise, ensuite recoupe les forêts. Ce que j'ai découvert d'ailleurs dans mon enquête, c'est que si les cathédrales, si l'architecture gothique est née avec ces élévations extraordinaires des nefs des cathédrales gothiques, c'est précisément parce qu'on était dans une époque où on avait décidé qu'il ne fallait pas trop couper d'arbres et que donc il fallait économiser les charpentes. Ça a donné ces structures extrêmement légères qui ont justement permis l'élancement vers le haut de la cathédrale gothique, qui en ce sens, en effet, vient d'une question d'écologie forestière. Sans parler naturellement de l'esprit forestier qui préside à la décoration des cathédrales. Naturellement, les feuillages, les arbres, etc. La cathédrale est une sorte de forêt, Chateaubriand était le premier à le dire.
Le jardin aussi, le jardin d'Éden ?
Le jardin est un grand lieu moral et mystique au Moyen-Âge. Le mythe du jardin clos protégé, cette espèce d'espace idéal séparé du reste, qui est séparé de la nature sauvage par des haies et à l'intérieur duquel on fait pousser des plantes potagères, des fleurs, etc. Mais en même temps, c'est le jardin du Cantique des Cantiques. C'est le Hortus Conclusus qui est également un symbole à la fois de l'âme et de la Vierge Marie. Le Moyen-Âge vit de symboles. La pensée médiévale fonctionne par les symboles. C'est une chose que nous avons beaucoup perdue. C'est pour ça que le monde intellectuel médiéval nous est un peu lointain, un peu difficile à pénétrer. Pour l'homme du Moyen-Âge, tout est symbole. Et symbole religieux. Devant une petite fleur, un mystique médiéval va tomber en extase parce qu'il reconnaît que dans les pistils, les étamines, etc., il y trouve des figurations, des outils de la passion. Et du coup, la fleur, ça peut qu'une petite passifloracée, sera baptisée fleur de la passion. Et il y aura des pages mystiques extraordinaires sur la passion du Christ à propos de cette petite fleur. Ça, c'est le fonctionnement intellectuel médiéval. Donc le jardin, en effet, c'est, pour l'homme du Moyen-Âge, quelque chose d'extrêmement important.
À la mesure que le monde allait devenir désenchanté, est-ce que les chrétiens, les catholiques en particulier, avaient organisé en quelque sorte une riposte à la mesure des cathédrales que l'on a bâties en pierre pour économiser les charpentes? Est-ce qu'au XVIIe, au XVIIIe, quand on voyait que le monde changeait, prenait une tournure extrêmement marchande, est-ce qu'il y a eu en quelque sorte des contre-feux déjà qui s'allumaient?
Non, parce que le problème n'a pas été vu. Le fait que le déisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un dieu, que peut-être, sans doute, il a créé l'univers autrefois, naguère, il y a longtemps, il y a des milliers d'années, mais que maintenant il ne s'en occupe plus et que l'homme fait ce qu'il veut, les intellectuels chrétiens d'Europe se sont laissés avoir par cette idée-là. Ils sont devenus facilement déistes, ce qui n'était un moyen de ne plus être vraiment chrétien. Alors, il y a eu des mouvements de réveil, par exemple le revival évangélique protestant, qui était une protestation romantique contre l'invasion de l'esprit des Lumières dans les églises de la Réforme. Et il y a eu l'équivalent chez les romantiques catholiques. Je cite dans mon livre des pages de Custine, personnage extravagant qui n'était pas une morale personnelle extrême, mais qui était réellement un catholique et un catholique même mystique, qui est pris d'horreur devant le saccage de la campagne anglaise par l'industrialisation. Il trouve ça inhumain, quasiment infernal, diabolique. Il trouve que la machine est quelque chose d'infernal. Et au contraire, il est en extase dans les Alpes devant ses solitudes où l'homme se retrouve face à son créateur et le remercie d'avoir créé le monde si beau. Ça, c'est le romantisme. Mais si vous voulez, ça doit plus au romantisme qu'au christianisme. C'est une espèce de réaction humaine horrifiée devant l'industrialisation. Les catholiques vont mettre du temps à suivre ce mouvement, à généraliser cette pensée. Comme je vous le disais, ils vont commencer par prendre conscience du problème social. Ils prendront conscience du saccage industriel que beaucoup plus tard. Ça commence avec, bon, Peggy, déjà. Il y a chez Peggy des phrases très fortes sur la création et sur la gratitude nécessaire. Et puis Claudel. Alors Claudel est un penseur écologique absolument prodigieux qui a des phrases d'une puissance extrême pour dénoncer le système industriel, pour dénoncer un certain capitalisme avec son esprit de croissance infinie et qui ne peut aboutir qu'à saccager la nature. Et c'est d'autant plus impressionnant que Claudel était tout le contraire d'un anticapitaliste. C'était un homme qui était passionné par le grand commerce international, c'était un homme de chiffres qui trouvait qu'il y avait une poésie des chiffres et il entrait en extase devant une belle comptabilité. C'était un poète tout à fait étonnant et il est à la fois très formidablement écologique et en même temps pas du tout ennemi d'une économie puissante, mais d'une économie qui ménage la nature. Et c'est une pensée qui l'a accompagné toute son existence et qui l'a ressourcé, alors justement, dans l'étude de la Bible, puisqu'il a passé toute la fin de sa vie à étudier la Bible, à traduire les psaumes, etc. C'était son occupation vitale. Et il trouvait, il est de ceux qui ont fait germer chez les penseurs catholiques modernes la redécouverte de la Bible en tant qu'esprit de l'écologie. Indiscutablement, on doit beaucoup à Claudel.
Mais donc, évidemment, postérieurement au romantisme, qui a été une exaltation sentimentale de la nature,
oui.
Mais pas une prise de conscience intellectuelle des enjeux à venir.
Non, parce qu'il faut bien dire aussi que dans le romantisme, spécialement chez Hugo, certes géant littéraire, mais sur le plan philosophique et métaphysique très discutable, il y a un panthéisme indiscutable chez Hugo. Pour lui, Dieu, c'est les sentiments océaniques. Pour le chrétien, non, Dieu n'est pas un sentiment, Dieu est une personne. C'est tout à fait autre chose. Il faut se méfier du sentimentalisme dans tous les domaines, y compris et surtout en théologie. Donc la religiosité de Victor Hugo, qui a parlé magnifiquement de la nature, est une religiosité non chrétienne, indiscutablement. Et le romantisme véhicule en grande partie cette pensée-là.
Patrice de Plainquette, avec l'écologie de la Bible à nos jours, pour en finir avec les idées reçues, si on se projette un petit peu plus dans le temps, une période extrêmement récente, celle de Jean-Paul II, de Benoît XVI, qui nous est contemporain, est-ce que l'écologie est apparue de manière formelle dans les textes de Jean-Paul II, des encycliques, des réflexions particulières?
Alors, non seulement formelle, mais je dirais quasi, presque véhément à certains moments. Ça commence tout de suite.
Mais c'est plus sur le capitalisme en soi que sur l'écologie?
Non, sur l'écologie aussi, bien sûr. Par exemple, le message pour la journée de la paix du 1er janvier 1990... est une sorte de manifeste écologique dans lequel Jean-Paul II énumère tous les saccages que l'économie fait subir à la planète. Il parle de la couche d'ozone, il parle de l'atmosphère, il parle de la crise de l'eau, il parle de la pollution des océans. Il ne parle pas encore de l'échauffement climatique parce que le thème n'était pas encore vraiment sorti. Non, il est écologique, il emploie le terme d'écologie et il l'est dès le début du pontificat. Un de ses premiers actes, c'est de nommer saint François d'Assise saint patron des écologistes. Ensuite, il distribue des prix d'écologie à des États.
Pourtant, c'est un franciscain qui instaura le prêt à intérêt.
Oui, alors ça, c'est curieux et très intéressant et très, je dirais, excitant pour l'esprit. C'est que le mouvement franciscain au Moyen-Âge est à la fois profondément écologique, le cantique des créatures, un sens de la fraternité entre l'homme et les éléments, entre l'homme et les animaux. Et si l'homme est le frère du soleil et de la lune, c'est parce que le soleil, la lune et l'homme sont des créatures, ils ont le même père. Évidemment, le soleil et la lune ne sont pas des êtres humains, ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais tout de même, d'une certaine façon, il y a une sorte d'esprit de famille entre les éléments, les animaux et l'homme dans la pensée de François d'Assise. Mais en même temps, ces franciscains, ce ne sont pas des ruraux, ce sont des fils de bourgeois commerçants pour la plupart. Il y a quelques universitaires et beaucoup de fils de bourgeois commerçants. François d'Assise lui-même, Bernardone, est fils d'un marchand drapier. On connaît l'histoire quand il prend une partie du stock de son père pour le vendre, pour le donner à un pauvre curé qui crevait de faim et qui devait reconstruire son église. Et ça fait un scandale épouvantable. Et l'évêque prend le parti de François contre son père, devant toute la ville. C'est très important, très, très allégorique ça aussi. Il y a un côté théologie de la libération qui est très intéressant dans cette vieille histoire. Mais en même temps, ces fils de commerçants évangélisent leur classe, c'est-à-dire la nouvelle économie qui est en train d'apparaître dans les villes d'Italie du Nord. C'est l'apparition de l'économie, de la grande économie commerciale européenne. C'est l'apparition de la lettre de change, d'un certain capitalisme financier. Et voilà, c'est la naissance de tout ça. Et les franciscains se donnent pour mission d'évangéliser cette nouvelle classe économique pour que, d'une part, qu'elle ne surexploite pas les immigrés de l'époque, c'est-à-dire les ruraux déracinés qui affluent dans les villes pour louer leurs bras pour servir les nouvelles fabriques. Et la tentation est grande de ne pas les payer ou de les payer très mal. Donc, les franciscains disent soyez de vrais chrétiens, payez-les le juste prix. Et la notion de juste prix, à ce moment-là, subit une révolution, puisque dans le haut Moyen-Âge, on considérait que le prix à intérêt était une horreur parce que c'était faire de l'argent avec le temps et que le temps n'appartient qu'à Dieu. Mais ça, c'était une époque où il y avait pas d'économie, il y avait l'économie agricole et point final, c'est une économie de subsistance. À partir du moment où l'économie financière apparaît, il faut la penser théologiquement et on n'a pas d'instrument pour la penser. Et des théologiens, en particulier franciscains, se mettent sur cette question et c'est justement un franciscain, français d'ailleurs, qui invente la notion même, le mot de capital. Le mot capital a été inventé par un théologien franciscain, ce qui est tout à fait étonnant. Et c'est dans l'idée qu'une réalité, il ne faut pas la nier, il faut la penser et il faut la baptiser, il faut l'évangéliser. Donc, à quelles conditions le prêt à intérêt est-il possible? Et les théologiens franciscains disent il est possible si il correspond à une réalité économique, à un besoin réel, s'il n'est pas usuraire, si ce n'est pas de l'exploitation de l'homme par l'homme. À ce moment-là, oui, on ne vole pas Dieu en prêtant un intérêt à partir du moment où c'est pour faire marcher une entreprise qui fabriquera des biens ou rendra des services et qui servira l'humanité.
Mais vous n'y voyez pas le début de l'engrenage du système infernal dans lequel on est entré, qui a conduit au saccage de la nature, qui consiste justement à hypothéquer en permanence sur le temps.
Mais non, parce que l'économie en soi n'est évidemment pas un mal. L'industrie en soi n'est évidemment pas un mal.
Non, mais l'argent virtuel, comment elle est conduite ? Le prêt à intérêt.
Oui, il ne faut pas confondre l'argent dématérialisé, c'est-à-dire l'argent symbole, qui est le carburant de l'économie financière, même dans ce XIIIe siècle où elle apparaît. Il ne faut pas confondre ça avec les masses de capitaux virtuels que nous avons aujourd'hui et qui se promènent d'un bout à l'autre de la planète de manière hystérique.
Non, mais est-ce que c'était le début ?
Non, ça n'était pas le début. C'était la naissance d'un outil économique nouveau. Mais tout dépend comment on emploie l'outil. Si on se laisse commander par l'outil, on est foutu. On aura une société inhumaine. Et c'est pour ça qu'il faut une politique économique. Il faut qu'à côté de l'économique, il y ait le politique qui n'abdique pas entre les mains de l'économique et qui fasse contrepoids. Il faut que les États aient des politiques. C'est ce que tout le monde est en train de redécouvrir aujourd'hui, en cette rentrée 2008, après les crises que nous avons vues toute l'année dernière et les années précédentes, de ce capitalisme qui perd la raison, comme le prix Nobel d'économie Stiglitz, ancien haut fonctionnaire international de l'économie mondiale, l'a très bien dit. Et ce sont les grands économistes qui sont les premiers à dire que le capitalisme est devenu fou, qu'il faut le rééquilibrer. Seul le politique peut le faire. Donc il faut ressusciter le politique qui a abdiqué entre les mains de l'économique dans les années 1990, au moment où M. Fukuyama nous disait qu'avec la société de marché, c'était la fin de l'histoire, que ça allait être le paradis sur Terre. Et 20 ans après, on en est aux émeutes de la faim. C'est pas le paradis sur Terre. Il faut donc que le politique ressuscite pour rééquilibrer l'économie. Donc, si vous voulez, un outil, il est là pour qu'on ne se laisse pas dominer par lui. Quand je lis des experts ultralibéraux qui nous expliquent, ils n'osent plus trop maintenant, mais l'an dernier encore, qu'il faut laisser faire les salles de marché parce que c'est l'outil technologique et qu'il est à lui seul la révolution, il est la nouvelle économie, donc il faut le laisser faire. Et bien, c'est comme ça qu'on a rendu fou le capitalisme et que l'économie financière est en train de torpiller l'économie réelle avec des coûts sociaux épouvantables. Donc il faut que le politique reprenne ses responsabilités, de toute évidence. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Il ne faut pas se laisser dominer par l'outil. Donc les franciscains, en inventant le mot capital, n'ont pas inventé le capitalisme financier version Jacques Attali.
Est-ce que le fait que l'outil devienne de plus en plus abstrait et qu'on entre dans une économie de plus en plus abstraite, dématérialisée, est-ce que ce n'est pas finalement la garantie que l'environnement, la nature sera peut-être mieux protégée à l'avenir ? Est-ce que l'outil devenant abstrait ne va pas finalement nous faire sortir de l'industrie lourde qui pollue ?
Non, il ne faut pas confondre virtuel et spirituel, c'est deux choses qui sont très différentes. Il y a même une dimension luciférienne dans le virtuel qui est non maîtrisée, qui est très inquiétante. On constate, et j'ai trouvé cette idée dans un texte absolument admirable, qui est un mémoire de diplôme de théologie romain, qui a été fait par un prêtre économiste, il s'appelle Patrick de Varax, qui est un texte qui est difficile à trouver parce qu'il a été édité comme on édite les thèses universitaires, c'est-à-dire très peu d'exemplaires, mais je le cite dans mon livre, qui explique très bien que dans l'économie devenue folle actuelle, la production de biens ou de services n'est plus le but des grandes multinationales, elle ne sert qu'à valoriser l'action en bourse. Donc, une multinationale top moderne change de métier et d'activité chaque fois qu'elle trouve une activité ou un métier plus rentable. Donc, on est en totale irresponsabilité, et sur le plan social, et sur le plan des modes de production appliqués à l'environnement, oui, à l'agriculture ou aux sociétés. Parce que le nomadisme des possesseurs de capitaux est forcément facteur d'irresponsabilité. Dans ces conditions, on ne peut pas conduire une politique respectueuse de l'environnement, puisque les multinationales pratiquent la fuite en avant.
Patrice de Plainquette, je vous cite, ou plutôt je cite Jean-Paul II, que vous citez sous des angles différents, concrets, méditatifs, sociaux, eschatologiques, cosmiques. Alors concret, œuvrer de façon à résister aux tentations d'une productivité et d'un gain qui vont au détriment du respect de la nature. La terre a été confiée par Dieu à l'homme pour la cultiver et la garder. Si l'on oublie ce principe en devenant les tyrans et non pas les gardiens de la nature, celle-ci se rebellera tôt ou tard. Justement, on y vient. À tout de suite, Patrice de Plainquette.
Écoutez Canal Académie.
Re- Regard croisé avec Patrice de Plainquette, l'écologie de la Bible à nos jours pour en finir avec les idées reçues. Aux éditions de l'œuvre, Patrice de Plainquette qui nous a expliqué justement les origines chrétiennes, les racines chrétiennes de l'écologie au regard des textes de l'Écriture. Puis nous sommes promenés à travers l'histoire, une histoire complexe, mais qui renvoie en tout cas à tous les enjeux du XXIe siècle, puisqu'on se trouve aujourd'hui dans une situation où on est conduit d'aller puiser dans nos écritures, notre histoire, pour comprendre un peu la façon dont il faut se comporter dans le monde d'aujourd'hui, un monde redoutable, qui est dominé par le capitalisme financier que vous avez fustigé, Patrice de Plainquette. L'outil ne doit pas nous dominer. Alors, on parle beaucoup du réchauffement climatique dont vous ne doutez pas, puisque pour vous, ça n'est pas une lubie, une forme d'intoxication.
Non,
c'est
non,
une certitude.
On ne peut absolument pas dire que ce soit une forme d'intoxication. Il faudrait, pour soutenir cette accusation, que tous les organismes internationaux, que tous les groupes de scientifiques, les seuls compétents pour parler de climat, qui sont les climatologues, que l'OCDE, que tout le monde fasse partie d'un complot. Mais là, on est dans un film de conspiration hollywoodien. C'est X-Files. Je constate qu'il y a chez les ceux qui se disent climat-sceptiques, que j'appelle pour ma part des négationnistes climatiques, un côté un peu X-Files. C'est-à-dire, il y a un côté théorique du complot, mais à partir du moment où le complot associerait un aussi grand nombre de gens, aussi important, aussi visible, ce n'est plus un complot, c'est un fantasme. Donc réellement, l'échauffement climatique existe. Du reste, puisque nous en parlions tout à l'heure, l'Église catholique est la première à en parler. Le cardinal Martineau a lancé pour la journée mondiale du tourisme, qui est en ce mois de septembre, un véritable manifeste écologique appelant précisément les touristes à prendre leurs responsabilités pour ménager l'environnement, ménager les cultures locales, voyager de manière plus sobre, etc. Et tout cela pour dégager moins de gaz carbonique, et pour ménager l'atmosphère, afin de lutter contre le réchauffement. Et le réchauffement climatique est donc considéré par le Saint-Siège comme une réalité, un danger redoutable et quelque chose contre lequel il faut agir. Lorsque le G8 s'est réuni en juin dernier, les 8 conférences épiscopales des 8 pays du G8 ont envoyé aux chefs d'État et de gouvernement de la conférence un message extrêmement ferme sur le réchauffement climatique. Donc, c'est une idée qui est tellement maintenant évidente, prouvée, palpable, qu'elle est prise en compte par tous les organismes responsables.
Est-ce que l'on peut puiser dans les Écritures, au-delà de l'aspect que vous avez décrit, respect de la création, le fait que l'homme, à travers ce respect de la création, respecte Dieu, se respecte lui-même, que c'est une société équilibrée et ordonnée, est-ce que l'on peut puiser des recommandations pratiques en matière d'écologie ?
Oui, bien entendu.
Qui inverserait la donnée du système.
Bien entendu, il y a deux niveaux d'action. Il y a celui de tout un chacun et il y a celui des États, bien entendu. Il n'y a pas de gouvernance mondiale, par conséquent, restons-en au niveau des États. Et si l'écologie politique est politique, c'est parce qu'elle demande aux États, justement, de prendre leurs responsabilités. Par exemple, pour lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, il est clair qu'il faut modifier la fiscalité. Il faut que les entreprises payent plus sur les pollutions émises et qu'elles payent moins sur les salaires versés. Premièrement, ça sera bon pour l'embauche et pour l'emploi. Et deuxièmement, ça sera bon pour l'atmosphère. Mais ça, il faut des lois pour ça. Il faut que l'État en prenne conscience et décide de le faire. Alors, le Grenelle de l'environnement réuni par Nicolas Sarkozy a agité beaucoup de belles idées, qui d'ailleurs se traduisent par un projet de loi qui est tout à fait honorable. Mais la question est, sera-t-il appliqué ? Pour la défense de l'environnement, en une trentaine d'années, il y a dû y avoir quelque chose comme 220 lois, dont à peu près aucune n'est appliquée. Donc, le tout n'est pas de faire des lois. Encore faut-il qu'elles soient respectées, qu'elles se traduisent concrètement. D'autre part, il y a l'art de vivre de tout un chacun. Il ne faut pas rigoler avec ça. Alors, certains font des gorges chaudes en disant, oui, ces écolos ahuris qui veulent, qui se douchent au lieu de prendre des bains, qui veulent faire pousser des radis dans leur jardin. Bah oui, pourquoi pas pousser des radis dans son jardin, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Si le radis pouvait venir dans mon jardin, malheureusement, le sol n'est pas bon, donc je n'essaye pas. En revanche, oui, prendre une douche au lieu de prendre un bain, ben, naturellement, pourquoi pas ? Ça permet d'éviter de dépenser du carburant, si on est chauffé au fioul, ce qui d'ailleurs revient au prix de l'or maintenant. Mais également, quand on part en vacances, se poser la question, pourquoi ne va-t-on pas dans des sites magnifiques en France ou en proche Europe ? Est-ce qu'on est absolument obligé d'aller en Indonésie ? Ou encore plus loin ? Est-ce que pour faire un dîner de Noël, on est obligé de faire venir, pour le plaisir de manger des trucs hors saison, de faire venir tous les plats des quatre coins du monde, au risque de dépenser précisément des milliers de tonnes de kérosène et de produire des tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère. Or, c'est ainsi que le grand marketing nous fait vivre aujourd'hui. Nous avons pris l'habitude de vivre comme ça, au lieu de faire attention à ce que nous mangeons. Par exemple, de plus en plus de gens, lorsqu'ils donnent un repas, font attention à acheter des denrées locales ou proches. C'est-à-dire qui n'ont pas dépensé des kilos de kérosène pour venir de Nouvelle-Zélande. C'est une chose qui est facile à faire, ça ne coûte pas réellement plus cher, c'est simplement une question de vigilance et de discipline personnelle. Et si tout le monde en faisait autant, eh bien le grand commerce lui-même changerait. Parce que si on n'achète plus de cerises de Nouvelle-Zélande parce qu'on a décidé qu'on ne mange pas de cerises au mois de décembre, eh bien le grand commerce arrêtera de nous en proposer, donc arrêtera de les faire voyager. Et les Néo-Zélandais trouveront d'autres sources économiques.
Mais alors, selon la théorie des avantages comparatifs, normalement c'est le commerce qui fait progresser l'ensemble des pays par l'échange. Là, vous arrêtez d'une certaine façon la logique de l'échange.
Non, parce que le commerce peut prendre des formes tout à fait nombreuses, diverses et variées. Et d'autre part, ce qui est le plus urgent pour les pays pauvres, et on l'a bien vu avec les émeutes de la faim, c'est de retrouver leur autosuffisance alimentaire. C'est la première des choses. Or, à cultiver des denrées pour l'exportation, on aboutit à ce que nous avons maintenant. Lorsque les prix des matières premières sur le marché mondial se met à flamber, les pauvres ne peuvent plus s'acheter à manger. Il faut donc que cette dépendance cesse et que l'autosuffisance alimentaire redevienne un objectif. Il faut les aider à l'atteindre. De même, les agrocarburants, les soi-disant biocarburants, pour lesquels un pays comme le Brésil a supprimé des milliers d'hectares de terres arables qui ne font plus de denrées vivrières, mais qui font du maïs pour l'éthanol, ça, c'est dramatique. C'est dramatique, peut-être pas directement pour le Brésil, où il n'y a pas de problème de faim en ce moment, mais d'autres pays, comme l'Indonésie par exemple, se retrouvent dans de sacrées situations. Donc il faut arrêter de dire que le commerce global est une autorégulation.
Et un facteur de développement.
Oui, développement. Il faudra aussi savoir qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là. Bon, le commerce global, quand il marche bien, ça va, mais quand le prix des matières premières flambe, ça ne va plus du tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit que s'en remettre au global, supprimer le local au profit du global, dans le domaine de l'alimentation, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors, vous parliez de développement. Oui, mais il faut faire attention à ce que l'on entend par là. S'il s'agit d'imposer le modèle occidental aux pays du Sud, s'il s'agit en plus de les pousser à se développer, entre guillemets, pour l'exportation, eh bien, on les fragilise, on les met en porte-à-faux. C'est extrêmement dangereux pour eux. Donc, à chaque civilisation, son modèle de développement. L'idée d'un développement uniforme pour le monde entier, qui consiste en réalité à penser que le monde entier va se mettre à vivre à l'occidental, est une idée qui est d'abord criminelle, envers le reste du monde, dangereuse, et puis en plus, c'est une idée condamnée, parce que au prix où est le pétrole, et on sait qu'il ne baissera pas ce prix, ou très peu, parce que la ressource pétrolière va s'épuiser. Le peak oil est déjà atteint dans beaucoup de champs pétrolifères principaux du monde. Par conséquent, il devient extrêmement urgent de trouver des ressources de substitution, et en tout cas de changer notre façon de vivre. Parce qu'à partir du moment où les transports deviennent aussi chers, eh bien les délocalisations deviennent difficiles, l'économie d'importation massive, mondiale, instantanée, occidentale, des pays riches devient une vue de l'esprit, parce que tout ça va devenir beaucoup trop cher.
Les transports ne sont pas chers, le fret ne coûte rien.
Le fret ne coûte rien.
Et se développe à une cadence inouïe.
Le fret ne coûte rien.
Le fret maritime en particulier.
Justement, si. Le carburant des bateaux n'est pas donné, contrairement à ce que l'on croit.
Oui, mais ça coûte moins cher de faire venir de Chine que de fabriquer chez soi.
Pour l'instant. Pour l'instant, et avec la flambée des prix du carburant, ça va coûter rapidement trop cher. Et à ce moment-là, les multinationales vont devoir réviser leur politique. Il va y avoir une relocalisation. Et ça, c'était tout à fait imprévu. Personne n'y avait pensé. On aurait quand même pu y penser, sachant que les gisements pétroliers ne sont pas inépuisables. Et maintenant, tout le monde se met à le dire. Je voyais il y a trois jours à TF1, au journal de Poivre d'Arvor, un remarquable ensemble de reportages sur la crise pétrolière, l'épuisement du pétrole, l'illusion des schistes bitumineux qui coûtent beaucoup trop cher à l'exploitation, et qui en plus, l'exploitation des schistes bitumineux dépense tellement d'énergie qu'on repère d'un côté ce qu'on gagnerait de l'autre. Et en plus, c'est très cher à exploiter, parce que si on ne les exploitait pas, il y avait des raisons, c'est que c'était tout simplement trop cher. Bon. Donc, même les grandes chaînes de télévision reconnaissent cette certitude et commencent à le dire. Le système actuel est condamné. Il est condamné à changer. Il faut trouver de nouvelles ressources. Donc, tout ce dont nous parlons en ce moment, eh bien, ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas parce qu'on préférerait autre chose, c'est parce qu'on va être obligé de trouver autre chose.
Avant que tout ne soit détruit, de préférence.
De préférence, avant,
la nature.
Avant que le système ne nous tombe sur la tête.
Voilà.
Oui.
Patrice de Plainquette, au XVIIIe siècle, l'ennemi, c'était la machine, l'ennemi de l'écologie, ainsi que vous l'avez dit en citant un observateur anglais. La mondialisation, aujourd'hui, c'est l'ennemi. Si l'on vous écoute, vous êtes favorable à l'idée de restaurer un monde de frontières,
non.
De préservation des espaces.
Non, oui, je dirais...
D'en finir avec le village, en tout cas.
Je dirais oui et non. En termes de frontières, la frontière n'a rien de ravissant ni d'idéal. Au XIXe siècle, on traversait toute l'Europe avec une carte de visite en poche. Le passeport n'existait pas. En revanche, en agriculture, on sait qu'il y a une chose qui est indispensable, ce sont les haies. Parce que s'il n'y a plus de haies, les sols foutent le camp. Et c'est ainsi que le remembrement des années 60, ce crime de technocrate, a provoqué de véritables catastrophes environnementales dans les régions agricoles françaises. Mais je dirais que les frontières ont un peu la même fonction, parce que c'est à l'intérieur de frontières qu'on peut faire respecter des lois sociales, par exemple, que l'on peut faire respecter des règles de protection de la nature, que l'on peut, alors précisément, imposer des taxes à l'importation pour obliger certains pays à polluer moins ou bien d'ailleurs à avoir de meilleures réglementations sociales. Tout ça n'est possible que si vous avez des frontières. Si vous n'avez pas de frontières, vous ne pouvez rien taxer. Tout circule à toute vitesse et c'est la possibilité au mal de se répandre sans limitation possible.
Mais ça va contre l'idée que l'écologie serait un levier pour une gouvernance mondiale où on vous dit que justement, comme le problème est écologique, il est mondial, donc il faut une gouvernance qui surpasse, qui dépasse les frontières.
Oui, il faut, mais comme disait je ne sais plus qui, s'il faut, c'est que ça manque étymologiquement. Il n'y a pas de gouvernance mondiale. Alors, on ne va pas attendre qu'il y en ait une, parce qu'il n'y en aura peut-être jamais. On n'en sait rien.
Vous la souhaiteriez ou pas ?
Sur certains plans techniques, oui. Évidemment pas, je ne souhaite pas d'État mondial. Parce que le Moloch mondial, non, merci. Ça n'est pas une garantie du tout de justice et de paix. En revanche, sur des choses qui se posent à l'échelon planétaire, techniquement, sur le plan économique également, il est évident qu'il faut, je dirais, des organes de régulation. Je ne sais pas si le terme de gouvernance, qui est un terme ultralibéral que je n'aime pas beaucoup parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il cache. En revanche, des organes de régulation, oui, ça sans aucun doute, c'est indispensable. Mais de notre côté, il faut...
Donc contraignant.
Oui, mais par accord entre les États. C'est un concert international qu'il faut obtenir. Il faut que les opinions fassent pression sur les États pour que les États s'entendent entre eux pour aboutir à une réharmonisation des choses. Mais tout ça, ça commence par les opinions, donc par vous et moi. Faisons pression sur notre État et que dans chaque pays, je dirais, oui, écologistes de tous les pays, unissez-vous.
Les chrétiens ne sont pas les premiers citoyens du monde ?
Les chrétiens sont 2 milliards, toutes confessions confondues, sur la surface de la Terre. S'ils se mettaient tous à appliquer l'art de vivre chrétien, l'art de vivre évangélique, qui donc est écologique dans leur vie quotidienne, ça fait 2 milliards de gens qui lanceraient un modèle de comportement nouveau. Et ça serait le début d'une révolution mondiale. En accord avec tous les non-chrétiens qui sont la majorité de la planète, bien entendu. Mais une avant-garde de 2 milliards de gens, c'est déjà pas mal. Et je crois que penser la planète chrétienne, penser le christianisme mondial comme une avant-garde capable de construire un avenir révolutionnaire et meilleur que le passé, c'est de nature à rendre le moral, je dirais, à nos catholiques d'Europe occidentale qui sont un peu moroses et qui croient que les belles années, c'était autrefois. Bah non, le monde qui nous est donné par la Providence, il est devant nous et nous sommes suffisamment nombreux et nous avons suffisamment d'espérance et nous avons suffisamment de patrimoine théologique, intellectuel et moral pour construire cet avenir à l'image de ce que nous souhaitons. Et en plus, nous en sommes responsables.
Heureux les pauvres, que dites-vous quand on vous dit que l'écologie, c'est un problème de riches ?
Que c'est une imposture, parce que si l'écologie était un problème de riches, il n'y aurait pas d'émeute de la faim dans les pays pauvres. Je dirais que l'écologie est un devoir pour les riches, de justice vis-à-vis des pauvres, parce que si les pauvres sont dans une situation difficile, c'est en très grande partie à cause de la politique économique des pays riches. Alors, ne déplaçons pas les problèmes, et du reste, ceux qui disent ça sont généralement eux-mêmes des ultralibéraux qui se fichent pas mal des pauvres et dont la logique fonctionne à l'intérieur des pays riches. Mais ils n'avouent pas qu'ils le sont. Mais c'est un argument, comme quand vous entendez dire que les écologistes sont des Khmers verts, c'est toujours dit par des gens qui n'aiment pas l'environnement. Mais ils ne vous le diront pas non plus.
Merci beaucoup, Patrice de Plainquette. Merci d'avoir commenté avec nous cette réflexion, l'écologie de la Bible à nos jours, aux éditions de l'œuvre, pour en finir avec les idées reçues, l'écologie à laquelle on s'intéresse ici à Canal Academy, dans le cadre d'une série qui lui est consacrée. Merci d'avoir précisé ce concept et d'en avoir, j'allais dire, presque exhumé les racines chrétiennes, puisque c'est vrai qu'on en parle assez peu dans les médias. Alors peut-être que, justement, un livre comme celui-ci fera advenir une réflexion sur ce sujet.
Oui, je me définis comme un écologiste radical. Radical ne veut pas dire extrémiste, mais ça veut dire à la racine. C'est une écologie qui va à la racine des problèmes.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter le premier volet de ce regard croisé sur l'écologie présenté par Annet Sautier de Chalon. Pour compléter ce regard croisé, nous vous invitons à écouter une autre émission, cette fois avec Jean de Kervas-Douai, professeur d'économie au CNAM et auteur d'un livre sur l'écologie intitulé « Les prêcheurs de l'Apocalypse ». Vous trouverez cette émission sur notre site www.canalacademy.com.